Anner, il a été ouvert en 1971 par le professeur Claude Olivenstein. Alors, il faut savoir que le phénomène drogue en France, il date à peu près des années 70. Le premier fait qui a été relaté par les médias date de 1969, c'est le suivant. On a retrouvé une jeune fille de 19 ans, morte d'overdose, c'est-à-dire d'un surdosage avec un produit, l'héroïne, dans un casino du sud de la France. Ça, c'est le premier fait relaté par les médias, et bien évidemment, l'opinion publique et les pouvoirs publics se sont mobilisés autour de cet acte dramatique, de cet événement tragique, la mort d'une jeune fille. Alors, suite à cette mobilisation, il y a eu une grande réflexion entre experts, pas uniquement des experts issus du milieu médical, mais aussi des experts issus des milieux judiciaires, c'est-à-dire des juges, essentiellement, qui se sont retrouvés, et ça a donné lieu à une loi, la loi de 70, on l'appelle comme ça, qui a été votée le 31 décembre 1970. Et cette loi, elle prévoit deux volets. Un premier volet répressif, c'est-à-dire que l'usage et la détention de drogue en France est interdit, hein, et un volet soins. Ce volet soins, dans ce volet soins, eh bien, ce qui est prévu, c'est la gratuité et l'anonymat des soins pour toutes les personnes qui seraient volontaires dans une démarche par rapport à une problématique liée à la consommation de drogue. Hein, dans cette loi, nous, on retient bien entendu le volet répressif, mais ce n'est pas notre parti. Et de notre côté, le volet soins, on retient l'idée de l'anonymat, de la gratuité des soins et surtout du volontariat des personnes qui vont être prises en charge. Donc, à l'issue de cette loi 70, eh bien, on a alloué un hôpital à Claude Olivenstein qui a pu ouvrir donc, le centre Marmottan.
Je ne sais pas si ça marche. Ça marche ? C'est bon ? Non ?
Tiens.
Je vais prendre le micro alors. Ok. Donc, en janvier 71, Olivenstein, je l'appellerai comme ça, ouvre le centre médical Marmottan. Une chose importante à souligner, c'est à partir de là que s'est construit le style de prise en charge, entre guillemets, à la française, des toxicomanes, des patients toxicomanes. Claude Olivenstein avait l'habitude de dire aux nouveaux médecins qui venaient travailler avec lui qu'ils allaient faire une rencontre avec une personne qui avait des connaissances des produits, des connaissances des effets des produits, et que c'était une rencontre entre deux experts, l'un expert des produits qui fonctionnent sur lui, de ses effets, etc., et l'autre, le médecin, qui lui est expert de ce qui fonctionne en général sur l'être humain, sur le physique, sur le psychisme, etc. Et que cette rencontre devait entraîner un respect mutuel, et dans le but d'une découverte d'une solution réaliste et satisfaisante pour la personne qui venait consulter. Donc c'est dans ce cadre aussi qu'on situe notre intervention, c'est-à-dire dans le partage des connaissances. Les connaissances que vous avez et les connaissances que nous avons par nos pratiques, par nos études, par notre expérience à Marmottan. Le micro, excusez-moi.
La mise en place d'un tel dispositif, donc, qui va prendre en charge ces personnes dépendantes, souligne l'idée qu'il ne peut pas y avoir de société sans drogue. Et les anthropologues, les historiens ont montré et ont relaté des phénomènes de consommation de drogue depuis des millénaires. Ça signifie que depuis toujours, les hommes ont utilisé des produits psychoactifs, c'est-à-dire actifs sur le cerveau, dans leur existence. Alors, je tiens à faire ici une petite différence, puisque ce que relatent les anthropologues, les historiens, etc., ce sont des consommations de drogue dites dans des sociétés traditionnelles, et il y a une différence entre les consommations de drogue dans ces sociétés dites traditionnelles et la manière qu'on a de consommer des drogues dans les sociétés modernes actuelles. Dans les sociétés traditionnelles, la consommation de drogue était collective, ritualisée, autour d'un événement tout à fait particulier, dans lequel la prise de drogue était un élément parmi d'autres, et ce qui était important, c'était le sens de cette cérémonie. Alors que dans nos sociétés modernes à nous, ces consommations de drogue, pour la plupart, ne sont pas ritualisées, elles ne sont pas collectives, elles sont le plus souvent... Elles peuvent exister en groupe, mais pour ce qui est des gens qui vont répéter ces consommations de drogue et entrer peut-être dans un abus, voire une dépendance, on est plus dans des consommations personnelles. Donc dans les sociétés traditionnelles, c'était du collectif. Dans les sociétés modernes, la consommation de drogue est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus individualisée. Alors, suite à cet état de fait, c'est-à-dire il y a toujours eu des drogues dans toutes les sociétés, on s'est demandé de quelle manière on allait pouvoir organiser cette intervention, et on s'est posé une question qui va un peu orienter toute notre présentation aujourd'hui. On s'est posé la question suivante: pourquoi les drogues? Voilà. De cette question qui va nous servir de fil rouge, pourquoi les drogues? À la manière un petit peu justement du professeur Olivenstein, on s'est d'abord interrogé sur les attentes des usagers de drogue. Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'usage de drogue? Et en premier lieu, si on s'intéresse aux attentes des usagers, c'est le plaisir. S'il y a usage de substances psychoactives, c'est rarement, sauf cas particulier, pour se faire du mal. Et donc, je passe la parole à Edouard.
J'en reviens sur substance psychoactive, parce qu'on dit à la fois drogue, produit, substance psychoactive. C'est un peu difficile à dire, substance psychoactive, mais c'est deux mots qui parlent assez bien. Donc ce que nous on appelle substance psychoactive ou psychotrope, c'est un produit qui agit sur le psychisme, donc sur le fonctionnement mental d'une personne, et qui vient modifier le fonctionnement mental et le psychisme d'une personne, c'est-à-dire qui modifie ses perceptions. Alors ça peut être les perceptions auditives, les perceptions visuelles, tactiles. Peut modifier aussi sa conscience, la conscience de son environnement, de l'espace, la conscience du temps. Ça peut modifier ses comportements en le rendant plus exubérant, moins chiant aussi, par exemple, et divers fonctionnements. Voilà, donc c'est important de revenir, parce que je vais redire souvent substance psychoactive, en tout cas je vais essayer, ça me vautrait. Donc, on vient de dire que toutes les drogues, toutes les substances psychoactives pouvaient apporter un certain plaisir dès lors qu'elles stimulent la bonne partie du cerveau. Donc, elles le font, toutes les drogues le font plus ou moins différemment en fonction de leur propriété pharmacologique, mais il y a quelque chose qui est commun. C'est qu'elle stimule un circuit qui est lié à la sensation de plaisir que nous, on appelle circuit de la récompense. Dont l'aboutissement, c'est éprouver du plaisir, de la satisfaction. Donc le circuit de la récompense, c'est une partie du système nerveux central, une partie du cerveau, où il y a des neurones qui sont à l'origine de fortes sensations de plaisir. Alors pour expliquer comment ça s'est créé, il faut revenir il y a très longtemps. Donc pour qu'une espèce survive, il faut qu'elle réponde à ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire se nourrir, se reproduire, merci, et aussi se défendre. Donc au cours de l'évolution de l'homme, il y a un circuit qui s'est développé pour récompenser l'exécution de ses fonctions vitales, qui amenait un mieux-être, enfin, etc. Je suis un peu brûlé. Et ensuite, le rôle de ce circuit s'est un petit peu élargi à toutes les expériences d'apprentissage qui amenaient du plaisir. Voilà. Si on peut dire un peu ça. Donc manger, boire, se reproduire, mais aussi avoir un comportement maternel avec ses enfants, enfin un comportement protégeant avec ses enfants, c'est des activités essentielles pour la survie de l'individu et donc de l'espèce. Donc au cours de l'évolution, la sélection naturelle a associé ces comportements à des sensations de plaisir. C'est comme ça qu'on a construit dans ce cerveau un circuit de la récompense et qui favorise les comportements reliés à des besoins fondamentaux. Donc ce circuit est au cœur de notre activité mentale. Et il oriente absolument presque tous nos comportements. C'est un circuit qui est très complexe, moi je ne le connais pas d'ailleurs, je ne le connais pas précisément en tout cas, avec un maillon central qui aboutit à la production d'un neurotransmetteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la dopamine, qui porte assez bien son nom, qui est le neurotransmetteur du bonheur, du plaisir, etc. Et toutes les drogues agissent sur ce maillon central, sur les circuits de la récompense, que ce soit l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, etc. Tout agissent sur ce circuit-là.
Ouais.
D'accord, désolé. Donc, de la même manière qu'il existe des plaisirs différents, on peut obtenir différents effets suivant le produit qu'on utilise. Alors, ça peut être de la simple détente avec une cigarette, donc le tabac. Ça peut être une explosion de plaisir immédiat avec la cocaïne, le crack, enfin plus avec le crack, l'héroïne, ou une stimulation, une excitation plus ou moins puissante avec la cocaïne, les amphétamines, ou bien une ivresse euphorisante comme avec l'alcool, le cannabis, ou bien ce que nous on appelle des phénomènes de déréalisation, c'est changement de la réalité, comme par exemple avec les hallucinogènes. Alors, avoir des hallucinations, c'est une expérience de déréalisation. Donc, une chose aussi à dire, c'est que tous les produits ont une fonction, c'est la levée des inhibitions. C'est se désinhiber et donner un sentiment de liberté par rapport à des contraintes qu'on subit quotidiennement. Voilà.
Alors, cette propriété des drogues, apporter du plaisir, ou on peut aussi dire du délire ou de la défense, s'inscrit généralement dans des moments festifs où la transgression socialement admise ou l'expression d'une opposition à l'ordre établi est ritualisée. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans le carnaval, hein, plus traditionnellement, c'est ritualisé qu'il y ait une transgression. À l'origine, on va se déguiser comme une autre personne mais on devient quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, on a le droit de transgresser. Donc de surcroît, les drogues procurent du plaisir, mais en plus, donc, elles s'inscrivent dans des moments en général festifs, donc on a un double plaisir. Une autre variante du plaisir qu'on peut obtenir avec les drogues, c'est se déconnecter du monde. Il n'y a pas que le plaisir d'être avec les autres, il y a aussi le plaisir de se déconnecter du monde, et il y a un produit que vous connaissez peut-être, le cannabis, donc qui a cet effet un peu bulle, cet effet de se couper un peu, d'être dans sa bulle quand on en consomme beaucoup et qui rend compte de cet effet-là. Donc, outre des attentes par rapport au plaisir, toutes ces drogues, au vu du nombre d'utilisations de la drogue, il est évident qu'elles visent essentiellement à une maîtrise sociale de l'humeur. Et surtout, ce qui est le moins contrôlable par l'esprit, c'est-à-dire se réveiller, s'endormir, la joie, le courage, tout ce qu'on ne maîtrise pas. Alors, ce qui apparaît par-dessus tout, c'est que, en fait, la drogue est très utilisée dans les rapports sociaux. Pourquoi ? Tout rapport social apparaît comme un abandon de souveraineté. Il faut se découvrir pour saluer un semblable. Hein, c'était cette manière d'ailleurs qu'on avait de se saluer avant, c'est-à-dire d'enlever son chapeau, se découvrir pour rencontrer quelqu'un d'autre. Celui qui boit, par exemple, va diminuer sa vigilance et de cette manière appartenir au groupe. C'est d'où la ritournelle, il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. De cette manière, j'appartiens au groupe et je m'intègre au groupe. Donc en diminuant le contrôle et l'angoisse, les drogues facilitent l'échange et diminuent la peur. Et c'est vrai que c'est difficile d'imaginer une fête sans ivresse. Mais d'autres contextes illustrent ces usages de groupe. Ainsi, les conditions insupportables de la guerre ou de certains travaux ne seraient guère imaginables sans le recours à l'abrutissement provoqué par les substances psychoactives. Il y a une époque, durant la guerre de 1870, donc entre la France et l'Allemagne déjà, la Prusse, oui, pardon, excusez-moi, il y avait le grand développement de la morphine. La morphine, c'est un dérivé des opiacés, c'est un petit peu comme l'héroïne. Eh bien, les soldats étaient tous sous morphine, si bien qu'à la fin de la guerre, quand ils sont revenus dans leur pays, ils étaient dépendants de la morphine.
Et la morphine, enfin, cette dépendance de la morphine, qu'on appelle la morphinomanie, en fait, était appelée la maladie du soldat. Tellement c'était propre aux soldats de cette guerre qui avaient été obligés de prendre ces produits pour supporter la guerre. Je pense qu'il y a d'autres exemples encore très actuels. Évidemment aussi, on se rend bien compte que certains travaux sont insupportables, de même que dans certaines conditions, il est nécessaire effectivement de faire appel à des stimulants. Là, je pense à un autre usage de drogue, comme par exemple les Indiens d'Amérique du Sud qui vont utiliser la feuille de coca pour pouvoir supporter les travaux en altitude. Voilà, un autre usage. Alors, les psychotropes n'ont donc pas que des propriétés chimiques, ils sont aussi porteurs de valeurs sociales contribuant à la socialisation. Donc, par exemple, la cigarette qu'on offre, le joint qui tourne, le verre de l'amitié, ce sont autant d'échanges et d'objets d'échange et de reconnaissance. Cette socialisation est particulièrement remarquable avec l'alcool. Quelques gouttes sur la langue du nouveau-né, le premier verre le jour de la communion, et puis la première ivresse au service militaire. Bon, il y a quelques années, on aurait encore pu dire ça, mais désormais, le cadre du service militaire a disparu. Et on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose dans... si les jeunes n'essayent pas de se créer leur propre rituel dans des week-ends où il y a des consommations excessives et massives d'alcool, consciemment, dans l'idée certainement de dépasser des limites. C'est-à-dire que le rituel n'étant plus inscrit effectivement dans un moment très construit, avant c'était le service militaire, peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes s'organisent eux-mêmes leur propre rituel et avec des consommations massives d'alcool. Le potentiel de socialisation varie selon la nature de la substance, son statut culturel, donc l'alcool, j'en parle beaucoup parce qu'en France, c'est l'alcool qui est un produit culturellement valorisé, et législatif. Évidemment, quand c'est interdit, c'est un peu différent. Et selon le groupe social. Un autre exemple, c'est l'usage du cannabis actuellement. Alors, le cannabis est prohibé en France, mais il se banalise, voire il prospère dans les groupes de jeunes. Le joint constitue finalement un puissant facteur d'intégration dans le groupe, au point que certains jeunes nous racontent qu'ils n'ont pas réussi à refuser quand on leur a tendu un joint, en se disant « si jamais je le refuse, peut-être que je vais être exclu ».
Et dans le même ordre d'idée, la consommation de stimulants comme la cocaïne correspond plus à un désir de socialité, de conformité par rapport aux standards modernes, c'est-à-dire la vitesse, la performance, l'assurance, la confiance en soi, l'hypercommunication. Et en revanche, à l'opposé, l'héroïne serait plutôt quelque chose qui désinvestirait des relations sociales, un retrait de relations sociales, être dans sa bulle en fait, être extérieur à tous ces standards modernes en fait. Donc on voit bien comment il y a des phénomènes de mode qui se retrouvent aussi, comme pour n'importe quoi, en matière de drogue. Et donc les produits varient selon l'ambiance sociale du moment. À l'époque, après les Trente Glorieuses, c'était plutôt l'héroïne et le cannabis qui avaient plutôt des vertus apaisantes. Et dans les années 80, une période de crise économique, c'était plutôt la cocaïne qui était valorisée parce qu'il fallait être performant au niveau professionnel, il fallait faire partie de l'élite, donc il fallait être hyper performant. Je vais juste dire un mot sur la prescription des médicaments psychotropes qui... À une époque, la prescription était plus axée sur des anxiolytiques ou des hypnotiques, des médicaments qui baissaient la vigilance, qui rendaient plus calme, plus apaisé. Et vers les années 80, ça s'est mué en prescription d'antidépresseurs pour être plus heureux, mieux dans sa peau, plus actif, etc. Et c'est encore le cas maintenant, il y a plus de prescriptions d'antidépresseurs de plus en plus pour être de plus en plus performants et meilleur. Surtout en France. Donc on voit comment, après le plaisir et la fonction sociale, les drogues peuvent facilement devenir un soin, une automédication, en fait. C'est le troisième point. Parce que les drogues agissent sur la douleur physique, mais aussi sur la douleur psychique. sur l'angoisse, sur la dépression. Et donc toutes les substances psychoactives, on l'a vu un petit peu, ont été à un moment utilisées pour leurs vertus thérapeutiques. Donc à un moment ou à un autre, ça a été des médicaments. L'héroïne pour les hommes qui faisaient la guerre, par exemple, pour les soulager de leurs maux. Donc c'est plutôt une toxicomanie aux opiacés, mais aussi la cocaïne qui a eu ses heures de gloire, qui n'a pas toujours été illégale, même en France, pour lutter contre la neurasthénie, c'est-à-dire manque de motivation, la fatigue. À ce sujet, il y a un grand consommateur de cocaïne qui était médecin et qui a été le précurseur de la psychanalyse, c'est Sigmund Freud, qui est un grand consommateur de cocaïne et qui voyait en ça un produit miracle. Et la cocaïne était commercialisée en France sous forme de vin, en fait, qu'on consommait. C'était le vin Mariani. Quand on s'est rendu compte que bon, c'était pas si terrible que ça, parce que ça rendait dépendant, bon, ça a été interdit depuis ce temps-là, mais ça n'a pas toujours été interdit. Et à l'époque de Catherine de Médicis, qui utilisait l'herbe de la reine, on appelait ça comme ça pour calmer ses migraines, et en fait c'était juste du tabac, qui est toujours légal en France, enfin dans beaucoup d'endroits. Donc voilà comment certaines personnes peuvent s'engager dans une automédication, dans un autotraitement de leurs symptômes. Alors ils jonglent entre des stimulants, des calmants, pour ceux qui ont vraiment des gros problèmes psychologiques, qui délirent ou qui sont envahis par la parano, ça peut être bien de prendre des produits à un moment pour essayer de calmer tout ça et essayer de gérer un peu sa vie. Donc pendant tout un moment, voilà comment les personnes peuvent être mieux sous drogue avec des drogues que sans drogue en fait. Et donc cette prise de produits va venir organiser leur vie. Donc avec un mieux-être, avec l'amélioration des performances, que ce soit physique, psychique, professionnelle, dans les relations sociales, ça va venir un petit peu organiser la vie de ces personnes. Et selon la réaction de leur entourage, selon leur environnement social, selon ce qu'on leur demande, ou quelles sont les exigences de leur milieu professionnel, les usages qui sont occasionnels au début peuvent devenir un peu plus réguliers, de plus en plus réguliers, et puis carrément abusifs, voire même nocifs. Et la potion du début devient poison. Voilà. On peut résumer ça comme ça. La potion miracle du début devient un poison qu'on est obligé de prendre systématiquement. Donc on voit comment la recherche d'une personne peut évoluer d'un bonheur immédiat. Et après, c'est plus tout à fait ça, c'est plus pouvoir fonctionner normalement, pouvoir fonctionner comme on imagine que fonctionnent les autres, c'est-à-dire normalement, sans problème, merci pour l'eau. Et tenter de se transformer ce qu'on est qui ne serait pas satisfaisant en fait. Le truc de départ, c'est que ce qu'on est n'est pas satisfaisant, donc on peut essayer de se transformer. Ça, c'est la deuxième partie. Après les attentes qu'on peut avoir par rapport à un produit, c'est tenter de se transformer. Se transformer soi. Je bois un coup. Hein. Yes. Donc, les drogues agissent sur le corps. Support des émotions et des perceptions. Ah ouais, c'est mieux, hein. C'est carrément mieux. Allez, on recommence. Donc, elles transforment le corps. Parfois, elles l'altèrent. Ça, c'est pas toujours grave, mais ça peut l'être. Et elles influent sur trois registres. Le corps pour moi, mon corps, le corps par rapport à un autre. Et mon corps, j'ai oublié la première partie, c'est le corps en soi, c'est-à-dire le physique. Donc, mon corps, comment je me vois, comment les autres me voient. Voilà. Je ne sais plus trop. Le corps en soi. Le corps, voilà. Donc, les substances psychoactives, il y a plein de variétés. Il y a plein de variétés de chimiques. De substances psychoactives. Il y a plein de diversité, de leur origine, d'où ça vient, etc. De leurs usages, comment on les consomme, de leur mode d'action et de leurs effets. Donc on a essayé de les classifier, parce qu'on aime bien classer les choses et les mettre dans des cases, c'est plus simple après pour en parler. Mais bon, c'est très compliqué parce que c'est vraiment très divers au niveau des produits. Mais il y a deux psychiatres français qui, dans les années 50, ont créé une classification qui est assez satisfaisante parce qu'elle est assez simple à comprendre et elle permet de classer à peu près tous les produits. Ils ont classé ça en trois catégories de substances psychoactives selon leur activité sur le système nerveux. Donc, il y a les substances sédatives, c'est-à-dire qui calment, qu'on appelle psycholeptiques. Je ne sais pas si je dis les noms, mais c'est important. Ouais, bon. Les substances excitantes, psychoanaleptiques, et les substances qui perturbent tout ça un peu, qui sont dites substances dysleptiques. Alors, les premières substances, c'est-à-dire dépresseurs du système nerveux central, qui dépriment les fonctions psychiques d'un individu. Déprime, ça n'a pas une notion péjorative, hein. C'est juste qu'ils font baisser, qui ralentissent, qui diminuent le niveau d'éveil et l'activité générale du cerveau. Donc, elles ont plutôt tendance à relaxer l'utilisateur. Il est moins conscient de son environnement, donc il peut apprécier d'être moins conscient de son environnement si l'environnement est un petit peu agressif ou s'il veut s'en extraire. Donc, parmi ceci, il y a l'alcool, les anxiolytiques, les médicaments anxiolytiques, c'est-à-dire, par exemple, le Valium, le Lexomil, pour les plus connus, mais aussi des somnifères, hein, du coup, il n'y a plus d'éveil, donc on dort, et les opiacés, comme l'héroïne, la codéine, la morphine, ça a tendance à faire baisser le niveau d'activité du cerveau, et les anesthésiques, par exemple, quand on se fait opérer, c'est bien de ne pas être réveillé. Ensuite, donc ça c'est les dépresseurs, les substances qui stimulent le système nerveux central, le cerveau, donc qui stimulent les fonctions psychiques de l'individu, qui augmentent le niveau d'éveil et le niveau d'activité générale du cerveau, qui accélèrent les processus mentaux, qui rendent plus alerte, plus énergique. Donc on connaît les stimulants majeurs que sont la cocaïne et l'amphétamine, mais il y a aussi des stimulants mineurs qu'on utilise tous les jours, comme le café par exemple, la substance qui rend le café attrayant à ce niveau-là, pour avoir plus d'énergie, ça existe dans le café, dans le thé, dans le cacao, dans le chocolat, dans les boissons au cola, etc., dans tout un tas de trucs, dans des médicaments aussi, évidemment. Et aussi la nicotine, on n'a pas toujours cette impression, mais la nicotine est plutôt, en tout cas au départ, un stimulant. Après une certaine dose, ça devient plutôt calmant. Mais bon. Et les perturbateurs du système nerveux central, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure j'ai parlé des hallucinogènes, qui perturbent les fonctions psychiques de l'individu et qui provoquent des altérations plus ou moins marquées du fonctionnement cérébral. Donc, qui modifie les perceptions, comme les hallucinogènes. Mais le cannabis fait aussi partie de ça. Ça perturbe l'activité psychique, mais il y a aussi le LSD, la kétamine, les champignons hallucinogènes, évidemment. Et donc ça, c'est les trois classes, ceux qui font augmenter le niveau d'éveil, ceux qui font baisser le niveau d'éveil, ceux qui perturbent complètement le fonctionnement psychique. Et parmi tout ça, on peut classer, il faut dire quand même un mot sur les médicaments psychotropes qu'on utilise donc en psychiatrie. Je revois. Ça passe pas ?
Si, c'est je revois.
Donc, on a les antidépresseurs qui, vous l'avez compris, stimulent plutôt l'activité, les anxiolytiques, et les anxiolytiques comme le Valium, par exemple, qui ont tendance à faire baisser le niveau d'éveil, et des hypnotiques, etc. Donc c'est important de dire ça. Et il y a aussi des médicaments qui ne sont pas vraiment des médicaments, mais qui sont des dopants que des sportifs peuvent utiliser, auxquels on peut être facilement accro, pour tout un tas de raisons, mais qui ont un potentiel addictif assez important. Donc dans la réalité scientifique, les termes de médicaments et de drogues sont complètement confondus, ça a la même signification. D'ailleurs, en anglais, drug, ça veut dire à la fois drogue et médicament. Ils n'ont pas deux mots pour dire drogue et médicament, c'est drug. Dans le langage populaire francophone, on fait bien la différence entre drogue et médicament. Les médicaments, c'est une substance psychoactive qu'on utilise à visée thérapeutique ou en prévention de. Et les drogues, c'est quelque chose qu'on utilise dans un cadre plutôt illicite, on va dire, sauf pour l'alcool. Donc, tous ces produits s'immiscent dans notre appareil psychique et transforment nos capacités réceptives, nos capacités réflexives, etc. Et viennent perturber un peu notre fonctionnement psychique, mais ça n'explique pas tout. Elisabeth.
Voilà, effectivement, même si on a une très très bonne connaissance, une connaissance approfondie des modes d'action des substances, ça n'explique pas pourquoi certaines personnes aiment à se transformer ainsi. Donc, ce qu'il faut, c'est comme ça qu'on aborde ce second temps à propos du corps. Donc là, on a vu le corps biologique, comment ça fonctionne sur le cerveau, quelles sont les propriétés chimiques en fait de ces différents produits. Mais ce n'est pas suffisant pour comprendre les phénomènes de dépendance à l'ensemble de ces produits et le phénomène d'addiction. Alors, c'est pour ça qu'on parlait du corps sous le regard de l'autre, parce que comme on l'a évoqué déjà dans la question des fonctions sociales de ces différentes consommations de drogue, notre corps est placé sous le regard des autres et il est jugé et il est évalué. Et évidemment, par le regard de l'autre, par la connaissance de soi-même à travers le regard d'autrui, chacun va prendre conscience de soi et de sa dépendance aux autres. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certains comportements, certaines conduites qui s'inscrivent dans chacune de nos postures, peut-être d'ailleurs pour nous protéger de l'autre. Allumer une cigarette avant de parler, ou bien gober un ecstasy, ou bien boire un verre en attendant quelqu'un, ou bien rouler un joint parce que je m'ennuie. Toutes ces situations, en fait, c'est peut-être aussi des manières, en tous les cas, de mettre un produit entre soi et les autres pour s'en protéger. Il y a un chanteur qui est décédé depuis, qui s'appelle Serge Gainsbourg, qui disait « Je suis très laid, je suis extrêmement laid, et je me cache derrière ma fumée de cigarette parce que j'ai envie qu'on croit que je suis beau pour pouvoir séduire toutes les filles. » Voilà, le produit se met aussi entre soi et le regard de l'autre, d'une certaine manière. Il faut aussi avoir cette utilisation. Les substances psychotropes se glissent dans ce corps à corps de la rencontre avec l'autre, nécessaire à toute relation. On peut utiliser donc, comme on l'a vu à chaque fois dans toutes ces classifications, pour mieux communiquer, donc là on va choisir des produits comme la cocaïne, hein, qui donnent de l'assurance, ou au contraire pour supporter la relation, voire l'éviter avec l'héroïne, on évite beaucoup la relation, on n'est peut-être même pas capable de communiquer et d'échanger quand on est sous l'effet de ce produit. Alors, on va essayer d'avancer encore un peu plus loin dans cette question du corps en fait. Donc il y a le corps jugé par les autres, mais il y a aussi le corps à moi, la manière dont moi j'établis ma relation avec mon corps. Et les drogues, en modifiant à volonté la façon dont le monde a pris sur le corps et la façon dont le corps a pris sur le monde, engendrent une transformation de la réalité. Je vais donner des exemples. Par exemple, on peut croire que les sonorités ont des couleurs avec le cannabis. Souvent, on a eu ce genre de récits par des personnes qui consomment du cannabis. On peut croire qu'on est le plus beau et le plus fort avec la cocaïne. On peut aussi croire qu'il est possible de voler quand on a pris du LSD. Voilà, on peut avoir... Ça transforme tellement notre rapport au monde et tellement notre rapport même à notre corps, les drogues, qu'on peut avoir des idées comme ça et des illusions. En quelque sorte, les psychotropes, les drogues, viennent agir comme le ferait un filtre entre nous et la réalité, entre nous et le monde, mais aussi entre moi et moi-même, quoi, quelque chose comme ça, entre le je et le soi. Si je retire ce filtre, si je l'enlève, eh bien, en l'absence des effets des produits, le monde peut me paraître complètement pauvre, insipide et dénué de sens. Je me suis tellement habituée à voir le monde à travers ce filtre que quand on m'enlève ce filtre, je ne reconnais pas le monde dans lequel je suis. Et c'est ce qui se passe effectivement pour les personnes qui deviennent dépendantes de ces produits. Ils ont l'impression en fait d'être éjectés du monde. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à fonctionner avec les produits qu'en leur absence, l'usager ne peut que se sentir éjecté de ce monde. Et à ce moment-là, le corps revient quelque part parce que le corps est oublié, le corps tel qu'il est très souvent oublié dans les consommations de produits. Le corps revient et il n'est plus tout à fait comme on le voulait, justement, il n'est plus suffisamment beau, il n'est plus suffisamment fort, il n'est plus suffisamment fun, il n'est plus suffisamment absent. Et quand il revient, il peut revenir parfois dans la douleur. Donc on va évoquer une troisième partie concernant les drogues et leur potentiel négatif. Et en premier lieu, on va essayer de vous présenter quels sont les effets négatifs des drogues. En premier lieu, premier danger avec les drogues, c'est leur potentiel addictif, c'est-à-dire la perte de liberté de s'abstenir, qui va entraîner souvent d'ailleurs une consommation compulsive, et ce, en dépit des conséquences négatives. C'est-à-dire que même si je me rends compte que ça ne m'aide pas à me lever, que ça ne m'aide pas à être bien avec les autres, que ça ne m'aide pas à réaliser les projets que j'avais envie de faire, eh bien, je n'arrive pas à m'arrêter. Et alors, sur le plan clinique, quand on parle d'addiction, on distingue deux formes de dépendance. Celle caractérisée par un syndrome de manque physique. Donc là, je vais laisser plutôt Edouard nous la présenter.
Oui, donc il y a deux formes de dépendance, la dépendance physique et la dépendance psychique. Ce qu'on appelle dépendance physique, c'est quand il y a un phénomène de syndrome de manque physique à l'arrêt de la consommation du produit. C'est le cas avec le tabac, c'est le cas avec l'alcool, c'est le cas avec l'héroïne, évidemment, et c'est le cas aussi avec pas mal de médicaments, toujours les mêmes, Valium, etc., qui déclenchent des syndromes de manque physique qui sont complètement indépendants de la volonté. C'est de la pure biologie, et ça se, par exemple pour l'héroïne, ça se traduit par, quand on fait des hospitalisations par exemple dans le centre, ça se traduit par des douleurs musculaires, des douleurs de ventre, des diarrhées, des vomissements, des éternuements, enfin tout ce qu'on peut imaginer de désagréable. Ça dure plusieurs jours et ça finit par s'estomper avec des traitements, avec un accompagnement. Mais bon, en tout cas, c'est une réalité. Le corps s'exprime face au manque de produits. Et la deuxième dépendance, qui peut tout à fait coexister ou être unique, enfin, qui peut coexister avec le syndrome de manque physique, mais qui peut être aussi indépendante, par exemple la cocaïne, il n'y a pas de dépendance physique, donc il n'y a pas de syndrome de manque physique. La deuxième dépendance psychique, qu'on appelle craving, qui n'y a pas de bonne traduction en français, c'est l'impulsion psychique à reprendre du produit, c'est-à-dire l'envie irrépressible d'en reprendre, qui s'impose à la personne. C'est le fameux, enfin, pour donner un exemple, c'est l'effet cacahuète. Quand on a un bol de cacahuètes, on en prend une, on en prend deux, même si on n'a pas envie de vraiment de manger de cacahuètes, même si on n'aime pas ça, même si c'est trop salé et qu'on n'a pas faim, on se surprend à en prendre une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Et ça, c'est un peu de l'ordre du craving, c'est-à-dire on n'a pas envie de le faire, mais on le fait quand même, on se voit le faire en tout cas. Donc ça, c'est les deux dépendances qui caractérisent le potentiel addictif. Un autre des risques, c'est la diminution de la conscience du danger lié à un produit, lié à la prise du produit, lié à la désinhibition, l'augmentation de la confiance en soi. Ça peut pousser certaines personnes à faire des passages à l'acte, à faire des choses regrettables, se jeter par la fenêtre parce qu'on croit qu'on peut voler, par exemple, ou d'autres choses plus terre à terre. Et il y a aussi un autre truc, c'est le bad trip. Le bad trip, c'est une mauvaise expérience liée à un produit, une expérience désagréable de perturbation du fonctionnement mental. Alors ça peut être temporaire, mais ça peut aussi durer très longtemps. C'est ce qu'on appelle rester perché, rester collé. Un bad trip qui s'arrête pas, ça se transforme rapidement en trouble mental, en fait on devient un peu taré, et ça cesse pas forcément à l'arrêt du produit, ça peut on peut rester collé très haut. L'autre chose par rapport à cette perturbation du fonctionnement psychique, c'est l'idée que petit à petit je bois petit à petit, on ne sait plus, enfin le cerveau, il ne sait plus fonctionner sans essence. Alors, il y a l'essence pour démarrer le matin, c'est le stimulant. Il y a l'essence pour dormir le soir, c'est le calmant. Il y a l'essence pour être plus intelligent, pour être plus performant, pour être plus agréable, etc. Et que petit à petit, on ne sait plus fonctionner sans ça. Et que quand il n'y a pas, on ne sait pas faire. Le cerveau ne sait plus faire. Il a désappris. Il n'a pas envie de faire. Et on devient comme ça une espèce de machine qui fonctionne qu'à coup de produit. Et on perd l'autonomie de son psychisme. Et l'autre chose, c'est l'affaiblissement des capacités intellectuelles. Donc ça peut être au moment de la prise du produit, mais ça peut se prolonger aussi, que ce soit avec le cannabis, l'alcool, enfin avec tout, même avec certains médicaments. On peut avoir des trous de mémoire qui se prolongent même à l'arrêt du médicament. Ou bien avec l'alcool, on n'est plus capable de réfléchir de se concentrer, etc. C'est vrai avec à peu près tout. Et peut-être aussi dire quelque chose par rapport au risque lié à la prise du produit lui-même, c'est-à-dire selon le mode selon lequel on le prend, par exemple quand on le sniffe, le fait d'échanger la paille qu'on utilise pour sniffer un produit, c'est un risque de transmission du VIH, des hépatites. Le fait d'échanger sa seringue, si on injecte l'héroïne ou la cocaïne, c'est un risque d'échange, de transmission du VIH, des hépatites aussi. Le risque lié à l'injection, par exemple, elle-même, si on n'a pas la peau propre, si on ne s'est pas désinfecté, si la seringue est crade, si elle a traîné quelque part, on peut s'injecter des bactéries et après faire des infections, etc. Les risques liés aux prises du produit, la surdose avec la coke. La surdose, c'est pas comme l'overdose. Bon, alors, je vais peut-être d'abord expliquer l'overdose. L'overdose d'héroïne, c'est-à-dire, c'est on a pris trop d'un coup, d'une quantité dont le corps n'a pas l'habitude, et il dit stop, il s'arrête, le cœur s'arrête, la tête s'arrête, et on meurt. La surdose, c'est un petit peu différent, c'est un peu le hasard, c'est selon les conditions. Est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas dormi? Est-ce que j'ai bien bu aujourd'hui? Est-ce que je suis bien hydraté? On peut prendre un tout petit peu de coke et faire une crise cardiaque, ou en prendre beaucoup, ne pas faire de crise cardiaque. C'est très aléatoire. Un consommateur de cocaïne ne peut pas vraiment savoir ce qui va lui arriver selon les conditions dans lesquelles il se trouve à ce moment-là. S'il est déshydraté, si ça fait 3 jours qu'il n'a pas dormi et qu'il prend de la coke, il peut très bien faire une crise cardiaque alors que c'est sa dose habituelle. Et il avait l'habitude de prendre ça. Voilà, c'est un peu ça, la surdose. Après, il y a toutes les complications que je vais vous passer. Complications physiques liées à la prise des produits, mais aussi aux produits de coupage qui sont utilisés pour vendre plus cher un produit qui n'est pas très bon. Voilà. Peut-être tu vas parler des différentes pratiques de l'usage occasionnel à l'abus. Je te passe le micro.
Merci. Ouais, je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau de temps. C'est tout bon. Voilà, donc en fait, j'espère que tout au cours de cet exposé, vous aurez compris qu'il existe effectivement différents types de pratiques, en fait. On parle, nous, en termes d'expérimentation, quand on a consommé un produit une fois. L'expérimentation, c'est consommer un produit une seule fois. On parle aussi d'usage simple, c'est-à-dire pour les gens qui vont consommer 2-3 fois dans leur vie un produit. On entend aussi les expressions, par exemple, d'usage festif ou d'usage récréatif, qui sont assez employées, notamment l'usage récréatif pour le cannabis. Donc ça renvoie bien à cette idée de la récré, du moment que je m'accorde de loisir. On parle d'usage festif surtout concernant les produits de synthèse. Alors, ce que j'entends par produits de synthèse, c'est les ecstasies essentiellement, mais les amphétamines aussi en font partie, le LSD, donc les produits hallucinogènes, qui sont surtout consommés dans des fêtes, lors de fêtes. C'est pour ça qu'on emploie le terme d'usage festif. Ils sont, voilà, surtout dans un temps précis. On va parler aussi d'usage occasionnel, bon, et puis on va parler d'abus, d'usage nocif, de dépendance, d'addiction. Donc chacun de ces termes, chacune de ces pratiques est différente et il est important de les distinguer et de ne pas amalgamer effectivement la prise d'un produit une seule fois avec ce que ça peut être comme conséquence, la répétition d'une conduite. Voilà. C'est-à-dire jusqu'à un usage presque quotidien, voire plus que quotidien, pluricotidien. On n'est pas dans les mêmes consommations, on n'est pas dans les mêmes effets, on n'est pas dans la même recherche même en fonction de ces différentes pratiques. D'ailleurs, les usagers qu'on voit à Marmottan appartiennent plutôt à ces deux dernières catégories, hein, de la dépendance et de l'addiction. Souvent, ce sont des gens qui viennent pour la première fois nous voir avec une moyenne d'âge, ils ont à peu près 30 ans, rarement beaucoup plus jeunes. Ça veut dire qu'ils ils consomment souvent depuis l'adolescence. Ils ont déjà 10, 15 ans de consommation de produits quand ils viennent nous voir à Marmottan. On peut parler de trajectoire de vie et c'est vrai qu'ils viennent nous voir épuisés, d'avoir mis au centre ce comportement, mis au centre de leur existence ce comportement qui leur prend tout leur temps, toute leur existence. Bien entendu, les personnes que nous voyons à Marmottan, comme le rappelait tout à l'heure Edouard, eh bien, ils ont rencontré un produit, ils l'ont consommé et ils en ont répété la consommation. C'est plus dû à leur parcours personnel, à leur personnalité et aussi à leur environnement à ce moment-là. Pour essayer de vous donner une définition de la personne toxicomane, c'est celle de Claude Lievenstein, donc du professeur Claude Lievenstein, qui disait que personne toxicomane, c'est la rencontre d'une personnalité, d'un produit et d'un moment socioculturel. Et il faut véritablement toujours avoir en tête cette approche à trois dimensions pour essayer de comprendre ces personnes. Cette définition, moi, je trouve, rend bien compte de la complexité de ce qu'est la toxicomanie. Nous, ce qui nous semble en tous les cas primordial dans notre quotidien, c'est d'écouter la souffrance, parce que c'est la souffrance que viennent nous exposer ces personnes qui légitiment notre intervention en tant que soignant. Voilà. C'est fini. Voilà, c'était fini. À vous.